Il y a quelque temps de cela, j'avais partagé avec vous l'histoire d'un homme riche, une histoire affligeante, cette histoire de l'homme riche et de Lazare. Et ce matin, j'aimerais continuer à parler d'un homme riche, mais pas le même. Il s'agit d'un jeune homme riche. Dans Marc chapitre 10, et normalement dans vos lectures également dans l'évangile de Matthieu, hein, vous avez relu ce récit concernant ce jeune homme qui vient poser des questions auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et on a là le récit d'une histoire je veux dire, déchirante. Quand on voit ce qui a été à la portée de ce jeune homme et ce qu'il en a fait. Comme j'ai dit, les évangiles de Matthieu et de Marc, mais aussi Luc, hein, nous rapportent ce même récit concernant ce jeune homme riche, de cette rencontre avec Jésus-Christ, de cet entretien, de cet échange avec le Seigneur. Et on va lire donc ce récit à partir du verset 17, Marc chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns les autres, Et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors ce récit du jeune homme riche se déroule dans la partie sud de la région connue sous le nom de Péré, à l'est du Jourdain. Et ici, si on regarde les différents passages, on a un contexte un peu plus grand et on comprend mieux la situation. Mais juste avant cela, on avait les disciples qui avaient empêché les enfants de venir à Jésus. Vous vous rappelez cette histoire hein, de verset 14, le Seigneur qui reprend ses disciples, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Et là, le Seigneur Jésus et ses disciples, ils se rendent pour la dernière fois à Jérusalem. Et là, ce jeune homme interpelle Jésus et lui pose cette question, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle? Et comme je l'ai dit, c'est, à mon avis, une des histoires les plus déchirantes et tristes à cause de la réaction de ce jeune homme. Mais j'aimerais ce matin juste décortiquer un peu ce passage et voir pourquoi c'est déchirant. Et puis surtout, hein, pour chacun d'entre nous, de bien comprendre ce dont il est question ici dans ce passage, nous interpeller aussi par rapport à notre situation vis-à-vis de Jésus-Christ. Tout d'abord, vous aurez probablement noté comme moi que ce jeune homme riche semblait avoir la bonne attitude, n'est-ce pas? On le voit courir, on le voit se précipiter vers Jésus, Et il montre en cela hein, combien sa situation, à ses yeux, était urgente. Mais qui était ce jeune homme? L'évangile de Matthieu rapporte déjà, oui, il était jeune. Ensuite, Luc, lui, mentionne qu'il était un chef, probablement quelqu'un qui dirigeait une synagogue. Mais les trois évangiles rapportent qu'il était extrêmement riche. Et malgré sa situation, sa réussite sociale, sa notoriété, sa position religieuse, ce jeune homme montre qu'il est désespéré dans la manière dont il approche le Seigneur. Hein, il se précipite vers lui, il tombe à genoux et il lui pose directement cette question: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il semblait bien pour lui qu'il manquait quelque chose. Il avait une vie que chacun qualifierait de réussie. La richesse, la notoriété, une grande place dans la société. Et pourtant, il savait qu'il lui manquait le plus important, la vie éternelle. Mais ici, on le voit donc montrer que il n'a pas honte, malgré qui il est, malgré sa position, malgré sa situation. Il n'hésite pas à s'afficher ainsi en public, à s'humilier devant Jésus-Christ, qui, bah, peut-être même contrairement à Nicodème, hein, si vous relisez le récit de la rencontre avec Jésus, ici, le jeune homme montre une grande forme d'humilité, hein, en s'agenouillant devant lui, en l'interpellant, hein, par ce titre de bon maître. En l'appelant ainsi, il reconnaît en Jésus un grand enseignant. Et malgré sa réputation et son rôle de chef spirituel, il s'est humilié devant Jésus, se mettant à genoux, et il attend cette réponse de la part du bon maître. Donc il avait, semble-t-il, la bonne attitude, hein, la bonne approche. Mais deuxièmement, il avait aussi certainement la bonne question, n'est-ce pas? Contrairement aux chefs religieux, aux pharisiens et aux scribes qui, par leurs questions, cherchaient continuellement à piéger le Seigneur Jésus, ici, ce jeune homme pose la question la plus importante, pose une question sincère, une question essentielle. Que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle? Lui qui avait certainement cette responsabilité spirituelle d'une synagogue, hein, ce lieu de rencontre pour le peuple juif qui ressemble beaucoup à nos églises, à nos assemblées, hein. C'était des lieux où les gens venaient pour chanter, pour prier, pour lire la parole de Dieu et quelqu'un expliquait les textes de la parole de Dieu. Mais voilà, malgré cela, on voit qu'il comprenait qu'il lui manquait quelque chose d'important. Il lui manquait l'assurance de savoir s'il était sauvé ou perdu. Il pose cette question: qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Donc pour lui, à ses yeux, il savait qu'il n'était pas là. Il savait qu'il n'avait pas la vie éternelle. Il savait que devant Dieu, il manquait encore quelque chose. Donc il avait la bonne attitude, la bonne question, mais il a raté le test de l'enseignant. C'est la troisième chose. Il a raté le test de l'enseignant. Avant même de pouvoir donner une réponse à ce jeune homme, le Seigneur lui pose une question qui aurait dû le faire réagir. Bon, c'est pas comme dans Rabbi Jacob. Hein. Dans Rabbi Jacob, il y a cette fameuse phrase-là, quand on pose une question à un juif, il répond toujours par une question, ça lui donne le temps de pouvoir répondre à la question. Le Seigneur n'avait pas besoin de temps pour répondre à la question. Il n'avait pas besoin de temps pour réfléchir. Il savait exactement ce qu'il faisait lorsqu'il a répondu par cette question à ce jeune homme: pourquoi m'appelles-tu bon? En lui rappelant ce qu'il devait déjà savoir: il n'y a de bon que Dieu seul. Alors ici, Jésus, il n'est pas en train de dire: je ne suis pas Dieu. Okay? Les musulmans utilisent souvent ce passage-là pour dire, voyez, Jésus, il ne se reconnaît pas comme Dieu parce qu'il reprend le jeune homme en lui disant, pourquoi m'appelles-tu bon? Ce n'est pas du tout ça. À chaque rencontre qu'on voit du Seigneur Jésus avec les personnes, il pose les questions, il les cherche à les faire réfléchir sur qui ils ont en face d'eux. Que ce soit avec Nicodème, avec la femme samaritaine, et encore ici avec ce jeune homme riche, le Seigneur Jésus cherche à leur faire ouvrir les yeux sur qui il est. De plus, il y a tellement de versets qui affirment que Jésus est Dieu. Il y a tellement de versets, même dans les évangiles, où le Seigneur Jésus fait comprendre qu'il est Dieu ou qu'il affirme qu'il est Dieu. Mais ici, en prononçant ces paroles, il cherchait justement à faire réfléchir à ce jeune homme sur qui il a en face de lui. Il cherchait à provoquer une réaction de sa part pour qu'il puisse faire, pour qu'il puisse établir le lien et qu'il comprenne qu'en face de lui, c'est Dieu. Et en prononçant ces paroles, il le cherche à faire réfléchir. Mais malheureusement, ce jeune homme rate le premier élément du test que Jésus est en train de lui faire passer ici et il ne réagit pas. Il ne donne même pas de réponse, n'est-ce pas? Si, j'avais en face de moi, voilà, un maître et je suis venu à lui en lui posant une question et que lui, il me pose une question et qu'il attend une réponse. Bah, je chercherai à donner une réponse. Mais ici, ce jeune homme, ben, dans aucune situation ici, il répond à cela. Le Seigneur continue alors et évoque maintenant les commandements, n'est-ce pas? Ce à quoi le jeune homme va répondre. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je crois que beaucoup ici peuvent, même en cela, s'identifier à ce jeune homme. Pourquoi? Car moi-même, je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né dans une famille où la parole de Dieu était enseignée. Je suis né dans une famille où on m'a éduqué selon les principes de la parole de Dieu, selon les principes moraux de la parole de Dieu. Et donc, je pourrais moi aussi dire, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Mais est-ce que j'ai vraiment réussi entièrement à observer toutes ces choses? Mais peut-être vous avez remarqué, vous aussi, tout comme moi, que les commandements même que Jésus mentionne sont tous relatifs aux relations humaines. Relisez ce que le Seigneur dit. Tu ne commettras point d'adultère, c'est quoi? Relations humaines. Tu ne diras point de faux témoignages, ben, les mensonges, on les dit aux autres. Relations humaines. Tu ne tueras point, relations humaines. Tu ne déroberas point, relations humaines. Tu ne diras point de faux témoignages, relations humaines. Tu ne feras de tort à personne, relations humaines. Honore ton père et ta mère, relations humaines. On connaît tous les 10 commandements et on sait que le premier commandement concerne notre relation à Dieu, l'adoration qu'on lui doit, n'est-ce pas? Et même là, donc, ce jeune homme rate ce second élément du test parce que par cette réponse, il montre quoi? Il montre qu'il est en train de suivre une religion. Il montre que, voilà, je suis quelqu'un de bien finalement parce que je suis ces choses, j'obéis à ces règles depuis ma jeunesse, je suis là-dedans, depuis ma jeunesse, je fais ce qu'il faut. Et pourtant, malgré cela, lui-même, il reconnaissait que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle. Parce que même nous qui avons grandi dans des familles chrétiennes, on ne peut pas dire que on a tout le temps obéi aux lois de Dieu. On ne peut pas dire cela sans mentir. N'est-ce pas? On peut pas, on est tous un vis-à-vis de la loi de Dieu coupable. Et donc par cette réponse, il montre qu'il poursuivait une religion et non pas une relation avec Dieu. Il ne cherchait pas la vérité, il poursuivait cette religion Et il était bien malheureux même par rapport à cela. Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué que le Seigneur a délibérément mentionné ses commandements qui dictaient donc ses relations humaines, mais qu'il n'a pas parlé du plus grand commandement. Là encore, ce jeune homme, il aurait dû réagir. Il aurait même pu dire, mais oui, j'observe, j'adore Dieu et lui seul. Et tout ce que tu as mentionné, Seigneur, je me suis efforcé de les observer. Non, ce n'est pas sa réponse. J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Et au lieu de réagir à ce que Jésus lui est en train en train de lui dire et qu'il essaie de lui montrer, sa réponse relève plus d'une défense, voire d'une éloge de sa propre vie, qu'une réelle compréhension de la loi et de l'objectif de la loi. La quatrième chose que je veux souligner également dans ce passage, c'est que finalement ce jeune homme était spirituellement désillusionné. Malgré sa position, malgré qui il était, par sa réponse, il a montré que spirituellement, ça n'allait pas. Donc le Seigneur cherche à l'amener à être honnête même vis-à-vis du péché, parce qu'il est impossible, il est impossible que ce jeune homme ait pu parfaitement suivre tous les commandements cités. Il les a peut-être observés, mais comme chacun de nous, il a failli, ne serait-ce qu'au minimum une fois, à obéir au commandement de Dieu. Jacques, dans son épître au chapitre 2, verset 10, nous dit, car quiconque observe toute la loi, comme ce que ce jeune homme disait, moi je l'ai fait, j'ai observé toute la loi depuis ma jeunesse. Jacques dit, mais une telle personne qui pèche contre un seul commandement devient coupable de tous. Et on va voir dans quelques instants de quelle loi ce jeune homme était coupable. Jean, dans sa première épître, nous enseigne ce que c'est que le péché hein, vis-à-vis de la loi. 1 Jean 3, 4 nous dit, quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Donc à partir du moment où une personne a transgressé ne serait-ce qu'une seule loi de Dieu, il s'est rendu coupable de toute la loi, il a transgressé la loi, ça fait de lui une personne coupable. Paul, dans l'Épître aux Romains au chapitre 3, à partir du verset 9 déjà, il dit, bon, quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Romains chapitre 3, verset 9. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Il n'y a pas un être humain qui n'est pas sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, verset 10, il n'y a point de juste, pas même un seul. S'il n'y a point de juste, pas même un seul, et ici, Paul, il est en train de citer les passages de l'Ancien Testament, des psaumes notamment, ça veut dire que ce jeune homme riche, il n'était pas juste aux yeux de la loi de Dieu. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous sommes tous coupables. Nous avons tous enfreint la loi de Dieu. Et quelques versets plus loin, versets 23 et 24, que nous connaissons assez bien, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. À cette question de que faut-il que faire, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle, il faut comprendre déjà que c'est une grâce qui vient de Dieu, que ça vient de lui et ça ne vient pas de nos propres efforts. Le seul homme ayant été capable d'accomplir toute la loi, nous disent les Écritures, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que tel était son objectif en venant sur terre, afin que par sa vie, une vie parfaite, une vie sans péché, en tant qu'homme, parce qu'il est homme, mais aussi Dieu, il puisse au nom de l'humanité offrir au Père un sacrifice qui puisse être parfait, qui puisse pas simplement couvrir nos fautes, couvrir nos péchés, mais les expier, les enlever complètement une fois pour toutes. Et de retirer la condamnation qui est sur chacun de nous. Matthieu, chapitre 5, verset 17, nous dit, « Ne croyez pas, et c'est Jésus qui parle, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. » Et en menant cette vie parfaite, Christ a accompli toute la loi. Et ainsi, Christ, comme Pierre nous le rappelle, il a souffert pour nous, en nous laissant un exemple de vie, afin que nous puissions suivre ses traces. Jésus nous invite à le suivre. Mais quand il nous invite à le suivre, il nous dit aussi que chacun de nous doit prendre sa propre croix. Un lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que morts au péché, nous puissions vivre dans la justice, pour la justice. Donc s'il est impossible à l'être humain de suivre toute la loi, la question importante ici, c'est pourquoi Dieu a-t-il donné cette loi? Si c'est impossible d'observer toute la loi, si finalement nous sommes déjà d'emblée tous coupables envers cette loi, pourquoi Dieu l'a-t-il donné? Dieu a donné la loi pour qu'elle nous montre à chacun d'entre nous notre incapacité à vivre une vie sainte, parfaite devant Dieu. Notre incapacité pour nous même d'accomplir quoi que ce soit pour nous sauver de la condamnation du péché. Paul, dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, les versets 23 jusqu'à 25, nous dit « Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ. » C'est-à-dire que voyant notre incapacité à suivre la loi, qui donc a bien pu réussir à accomplir la loi? Christ. La loi nous amène vers Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. C'est-à-dire que on est soulevé, on est enlevé de cette condamnation-là. Parce que la loi, ce qu'elle nous fait, c'est qu'elle nous montre la sainteté de Dieu, elle nous montre notre péché, elle nous montre notre incapacité. Et Dieu, il enlève tout ça en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, cette loi est accomplie. Donc, loin d'être convaincu de son incapacité à atteindre la perfection de la loi, ce jeune chef, ce jeune homme riche, tout comme ses confrères religieux, était réellement convaincu d'avoir respecter la loi. Et pourtant, comme on l'a vu dans Jacques, celui qui pêche contre un seul commandement se rend coupable de tous les commandements. Si ce jeune homme avait vraiment compris la loi, il aurait réalisé, comme Paul l'a compris, qu'elle condamnait la haine, les pensées lubriques, la convoitise, les mensonges, le déshonneur de ses parents, chose dont nous avons au moins été coupables de l'un d'entre eux, n'est-ce pas? Mais ce jeune homme était coincé dans le même système religieux que les pharisiens et les scribes, et beaucoup à l'époque de Jésus. Rappelez-vous du sermon sur la montagne. Le Seigneur, il avait dénoncé ce système. Matthieu 5, verset 20, « Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Les pharisiens et les scribes, ils pensaient que leur justification, leur salut, c'était le fait que nous sommes le peuple de Dieu, nous avons sa loi, nous accomplissons sa loi, donc nous sommes bien. Il n'y a rien à redire. Ce qui est intéressant, c'est que on a ce récit de ce jeune homme qui vient, qui pose cette question tellement importante. Mais il y a une autre personne qui a posé une question très similaire. Ce n'était pas un chef religieux. Ce n'était pas quelqu'un de riche. Ce n'était pas quelqu'un qui avait une très grande réputation. En fait, c'était le geôlier Philippe, n'est-ce pas ? Qui posa cette question à Paul et Silas? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et la réponse de Paul et Silas a été « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et donc, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et on voit non seulement ce geôlier, ce gardien de prison, mais aussi sa famille venir au Seigneur Jésus-Christ. Notez que la réponse, c'est pas ben, « Est-ce que tu as suivi tous les commandements ?» Ben, déjà, en tant que geôlier à Philippe, je ne pense pas qu'il connaissait les commandements de Dieu, n'est-ce pas? Mais on voit une attitude différente. Oui, il a montré de l'humilité, il a posé la question importante, mais il a choisi la bonne réaction par rapport à la vérité qui lui était annoncée. Quel contraste, n'est-ce pas? Mais ici, avec ce récit du jeune homme riche, on ne peut qu'admirer la patience du bon maître. Car oui, en bon enseignant que Jésus est, il a réussi à amener ce jeune homme à démontrer qu'il était lui-même coupable du premier et du plus grand commandement, n'est-ce pas? Quand le jeune homme donne cette réponse, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Déjà, Jésus le regarde et il l'aime. Malgré le fait qu'il soit complètement perdu, l'amour de Christ ne change pas. Et il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Rappelez-vous, il a dit, j'ai observé toutes ces choses. Des relations humaines, des lois de relations humaines. Mais maintenant, Jésus, il est en train, encore une fois, de le titiller, de le faire réagir un peu, là, en lui disant, va, vends tout ce que tu as. Quelle a été la réaction du jeune homme? Il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et en cela, il a montré qu'il était coupable du premier commandement. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. L'amour qu'il avait pour son argent était plus important à ses yeux que l'amour pour Dieu, et malheureusement et tristement plus important même que son sort éternel. Il a montré qu'il était coupable. Il a montré qu'il était coupable de ce commandement vis-à-vis de Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais également, il a montré qu'il était coupable encore d'un autre commandement. Cinquième chose que je veux que vous notiez ici, c'est que son idolâtrie, finalement, l'a poussé à rejeter la réponse du maître. Puisque le jeune homme riche a affirmé avoir observé la loi, le Seigneur donc le met au défi de démontrer cela en lui demandant de démontrer son amour pour Dieu. Oui, certainement ce jeune homme, il était sincère dans sa démarche, son approche, dans sa quête de vie éternelle. Mais sa réaction montre que pour lui, il y avait encore quelque chose de plus important que cela, et même que Dieu. Il a déclaré par sa réaction, il a déclaré ouvertement qu'il chérissait davantage ses richesses et son prestige, bien plus que l'amour qu'il devait à l'Éternel. Et finalement, par cela, il a déclaré, non pas verbalement, mais par ses actions, être un idolâtre. Il a montré qu'il n'était pas prêt à sacrifier cela afin d'hériter la vie éternelle. Et voilà bien la grande tragédie de la vie de cet homme. Son idolâtrie l'a poussé à rejeter la vérité le concernant et concernant Christ. Les insuffisances donc de sa vie l'ont empêché d'hériter la vie éternelle. Hein, lui qui était riche, finalement, il était spirituellement pauvre. Lui qui avait tout, il a fini par perdre ce qu'il y avait de plus précieux, la vie éternelle. En Matthieu 13, verset 44, il nous est rappelé que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Ce n'a pas été le cas de ce jeune homme riche. Il avait le trésor en face de lui. Il avait Jésus-Christ lui-même en face de lui. Et il n'a pas vu le trésor qui était là. Il a préféré donc renoncer à la vie éternelle parce que son Dieu finalement, c'était sa richesse. Son Dieu finalement, c'était lui, parce que ce qui lui importait surtout, c'était son confort, sa situation à lui. Je veux être bien physiquement, je veux être bien socialement, je veux être bien financièrement, je veux avoir une bonne réputation sociale. Mais tiens, je veux aussi pouvoir être sauvé et avoir la vie éternelle, et je veux avoir toutes ces choses pour moi. Il avait beau avoir eu beaucoup d'éléments positifs dans sa vie. Il a beau eu avoir la bonne attitude, la bonne approche en venant vers Jésus-Christ. Il a eu la bonne question, mais ça n'a pas suffi. Il avait même la connaissance des Écritures, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas suffi. Et malheureusement, même le fait d'avoir été confronté avec la vérité qu'est Jésus-Christ, ça n'a pas suffi. Celui qu'il avait appelé bon maître, finalement, il n'a pas accepté la réponse du bon maître. Il n'a pas voulu se soumettre à la réponse que Dieu lui a donnée. Malheureusement, de nombreuses personnes, comme ce jeune homme riche, ne veulent pas se soumettre à la vérité de la parole de Dieu. Ils ne veulent pas se soumettre à Christ. Ils préfèrent suivre leurs propres sentiments, se fier à leur expérience, plutôt même qu'à la parole de Dieu. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de relire un livre qu'on m'avait demandé de revérifier, voir si c'était bien traduit, etc. Et il y avait un passage dans ce livre, bon, c'est un livre au sujet du pentecôtisme, mais ce que ce missionnaire qui a écrit ce livre, ce qu'il mentionne là, c'est malheureusement la réalité pour beaucoup de chrétiens. Il dit, je me souviens très bien avoir conseillé une femme pentecôtiste à propos d'un problème non biblique dans sa vie. Après avoir passé 4 heures ininterrompues à passer d'un passage à l'autre de la Bible pour expliquer clairement l'erreur de sa croyance, cette femme a finalement mis fin à l'étude biblique en disant « Pasteur, vous pouvez arrêter de me montrer d'autres passages bibliques, je sais ce que j'ai vécu et je ne suis pas intéressé par ce que dit la Bible. » Quelque part, ce jeune homme riche, il avait la même attitude. « Je ne suis pas intéressé finalement par la vérité que tu me donnes, moi je préfère garder mes sous. » Je ne suis pas intéressé par la vérité de la parole de Dieu. Je préfère continuer de vivre ma vie comme moi je l'entends. Même face à la vérité de la parole de Dieu, malheureusement, trop souvent, même des chrétiens réagissent comme ce jeune homme riche. Confrontés à la vérité, ils choisissent d'ignorer cette vérité. Afin de pouvoir bénéficier de cette vie éternelle, les Écritures nous montrent qu'il faut renoncer au péché, qu'il faut se repentir. Or, ce jeune homme n'a pas voulu abandonner son argent, même au bénéfice des pauvres. Et voilà bien la deuxième loi qu'il a enfreint, n'est-ce pas? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Christ lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et par cela, Jésus lui dit, montre-moi que tu adores Dieu, montre-moi que tu aimes ton prochain. Il était incapable de le faire. Ne soyons pas comme ce jeune homme dont l'histoire est probablement donc la plus déchirante, parce que c'est le cas de milliards de personnes autour de nous. Et malheureusement, souvent, c'est le cas de certains chrétiens, non pas par rapport au salut, mais par rapport au fait que voilà la vérité de la parole de Dieu, mais je refuse de l'écouter, je veux faire ce que je veux. Et ils finissent par s'en aller tout tristes, parce que leur vie spirituelle, c'est qu'un feu de paille. Elle n'a pas de profondeur. Face à la vérité et au choix à faire pour suivre Christ, la question pour chacun d'entre nous, c'est sommes-nous prêts vraiment à nous soumettre à ce que Christ nous demande? Quand il nous dit, prends ta croix et viens, suis-moi. La croix, ce n'est pas quelque chose d'agréable, n'est-ce pas? La croix, c'est le symbole de l'injustice que Christ a subi. La croix, c'est le symbole de la douleur, de la souffrance, de la mort. Quand Christ dit cela, ces paroles ne sont pas des paroles juste en l'air. Elles sont pleines de sens. Ne laissez pas qui que ce soit ou même quoi que ce soit être pour vous s'il vous retient de suivre Jésus-Christ. Que ce soit si aujourd'hui vous êtes conscient que finalement vous n'êtes pas sauvé, parce que à aucun moment dans votre vie vous ne vous êtes humilié devant Dieu, demandant pardon pour vos péchés, décidant de « je rejette le péché, je renonce, je me repens de mes péchés » en plaçant votre foi en Jésus-Christ, dans son œuvre sur la croix, pas dans ce que moi je suis capable d'accomplir en suivant les lois, mais de ce que Christ lui a tout accompli, la loi. Et que son sacrifice est le seul à pouvoir ôter le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu. Ou que ce soit, même pour notre croissance spirituelle, combien de chrétiens, lorsqu'ils sont donc confrontés à ce que la Bible enseigne, par rapport à notre vie, par rapport à notre rapport envers le péché, envers le monde, envers la sainteté à laquelle nous sommes appelés, nous sommes tous coupables. Même moi, je sais que j'ai eu beaucoup de choses à changer encore dans ma vie pour être saint tel que Dieu veut que je sois saint. Mais en aucun cas, il faut, en connaissant la vérité, dire que cette vérité, elle n'est pas pour moi. Je choisis autre chose. Parce que alors là, on a complètement, mais alors complètement raté le coche. Parce que finalement, on est comme ce jeune homme riche. Je veux ce qui est bon pour moi. Je veux les bonnes choses que Dieu a à m'offrir, mais je ne veux pas accepter qu'il va y avoir des efforts à fournir, qu'il va y avoir des choses à abandonner dans ma vie, de renoncer. Quand Christ nous dit de renoncer à nous-mêmes, il n'est pas en train de dire « il faut que vous arrêtiez d'exister en tant que ce que vous êtes, votre personnalité, etc. » Non, quand il dit de renoncer à soi-même, c'est déjà de l'accepter lui entièrement et de le laisser lui transformer notre vie. Renoncer à soi-même, c'est d'accepter de suivre Jésus en prenant notre croix. Que notre vie ne soit pas une histoire déchirante comme celle de ce jeune homme riche. Il avait tout, toutes les réponses que Jésus lui a données. Et il a choisi de les ignorer. Parce qu'il s'aimait lui-même, il aimait sa richesse, sa situation, sa notoriété, plus que la vérité, plus que Dieu. Ne soyons pas comme lui. Prions.